Bien, on avait dit qu'on apprenait quelques questions de compréhension ou de prolongement à partir des trois exposés, puis après on va faire la table ronde finale. Monsieur Bout, pardon, simplement j'essaie de garantir.
Pour rebondir sur ce qu'avait dit Marie-Antoine, j'ai bien apprécié la présentation, mais la végétation, c'est une page dans le plan climat Paris 2007. C'est pour ça que je dis que c'est quand même minime. Il y a 80 pages dans le plan climat. Et même dans la catégorie adaptation, qui ne fait que 5 pages dans ce même plan climat, c'est toujours une page de végétation, de végétalisation de Paris. Par contre, ce qu'on voit, ce n'est pas vraiment une question, mais dans toutes les belles images qu'il y a et dans toute l'exposition sur Paris avec 2 degrés de plus, et puis dans une partie des réflexions maintenant, ce que je vous ai rencontré et d'autres de vos collègues, la végétation, maintenant on fait plus de place à l'adaptation dans les plans climat, et dans cette adaptation on fait toujours beaucoup de place, pas mal de place, j'ai envie de le croire, j'espère pouvoir le montrer à la végétation dans les villes.
Oui, je ne sais pas si j'ai grand chose à rajouter. C'est vrai que c'est une page sur 4 sur le volet adaptation, c'est quand même un quart, puisque dans les 5 pages, il y a la présentation, les thèmes adaptation, et il y a énormément d'images. Et donc finalement, ce qui est vraiment plus développé dans le plan climat, c'est vraiment l'adaptation. Il y a une partie sur le plan canicule, le registre Chalex, une partie sur le plan prévention, réduction, inondation, et une page sur la végétation. C'était vraiment le volet majeur.
Une question pour vous aussi, Marie-Antoine Nouveau. Vous avez parlé beaucoup de climatisation. Est-ce que vous considérez que l'installation de climatisation est un moyen de s'adapter au changement climatique?
Personnellement, pas du tout. Mais pour la ville de Paris, il y a quand même des contraintes assez fortes. Elle gère certains établissements, notamment des établissements qu'on appelle des EHPAD pour les personnes âgées, des crèches. Donc pour certains de ces établissements, il y a des contraintes qui sont qu'il faut assurer une certaine température. Alors après, justement, on est en train de mener une étude à Paris sur quels sont les différents modes de climatisation possibles, quels sont ceux qui rejettent le moins de chaleur dans la ville. On fait un peu une analyse coût, consommation d'eau, consommation d'énergie, pour comparer différents modes de climatisation et pas que climatisation, rafraîchissement aussi, pour essayer de développer ça. Mais on sait très bien que, et ça faisait aussi partie du volet adaptation du premier plan climat, il faut limiter le recours à la climatisation, en particulier la climatisation individuelle.
Le secteur électrique, on parle beaucoup d'effacement de la demande en cas de crise. Et je me demandais si, dans le cadre du plan parisien, comme les transports sont l'un des points de vulnérabilité, on réfléchissait à l'effacement de la demande dans les transports parisiens. Est-ce qu'il avait été envisagé des choses dans ce sens-là, avec du télétravail? Un peu ce matin, quelqu'un a parlé des plans pandémie, dans lesquels il y a des idées comme ça, où on évite aux gens de se transporter sur leur lieu de travail en cas de crise. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé soit par les uns, soit par les autres?
Je vais commencer. Alors, à Paris, on en est encore sur la définition de la stratégie d'adaptation, donc on n'en est pas encore à ce stade de réflexion, mais on commence à parler télétravail. Alors, pas en termes d'adaptation, mais en termes d'atténuation, finalement, essayer de limiter l'usage de la voiture pour venir sur son lieu de travail. Et ça pose énormément de problèmes, notamment vis-à-vis des syndicats à la ville de Paris, qui estime que le télétravail est une nouvelle mesure pour ne pas être connu au travail. Enfin, je vous passe les détails, mais donc ça pose des problèmes par rapport au syndicat. Mais la mesure est regardée et elle fait même partie du plan d'action du déplacement de l'administration parisienne. Donc on y réfléchit.
Je vais juste répondre sur l'aspect énergie. Alors, effectivement, pendant les événements très sévères de type canicule, c'est des choses qu'on a mis en place, en particulier avec les contrats industriels. On a des gros contrats industriels de fourniture d'électricité et qui prévoient des clauses d'effacement en cas de nécessité d'assurer des pointes. Enfin, quand on a assuré des pointes dans des zones de temps difficiles. Donc ça, c'est des choses qui existent et c'est des choses probablement qu'on aura à renforcer dans le futur, hein, dans tout l'aspect demande. Hein. Alors, effectivement, il y a un point que je n'ai pas mis dans la stratégie, j'ai mis que les quatre principaux points, mais il y a un point qui concerne, sur lequel on a à faire des choses, sur tout l'aspect demande, sur l'aspect adaptation des contrats, de manière à pouvoir gérer ces situations de problème. C'est quelque chose qu'on a déjà fait, en fait. On a été amené à faire, en particulier pendant la canicule de 2003, où il y a eu certains effacements de la part d'industriels quand on avait des moments difficiles.
Et c'est encore une question à la ville de Paris, excuse. Et vous avez dit que votre plan s'appelle plan d'adaptation au changement climatique et à la raréfaction des ressources associées, si j'ai bien compris. Et vous avez cité l'eau, donc. Bon, évidemment, c'est une ressource associée au changement climatique, mais c'est assez naturel. Vous avez cité le pétrole aussi. Et alors, là, je ne sais pas, on pourrait citer les pierres aussi. Et alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Et EDF, que je connais un petit peu de son côté, ne fait pas la même chose. La raréfaction en gaz ou les problèmes d'arrivée du combustible ne sont pas mélangés avec le changement climatique. C'est deux choses qui n'ont pas d'enjeu. Enfin, qui ne sont pas sans rapport.
Alors, le but de cette raréfaction des ressources au sens large, donc c'était une volonté politique, ça ne répond pas à la question, je vais y venir. Quel est le lien avec le changement climatique? Le but, c'était d'imaginer la phrase qu'avait dit Denis Baupin quand il a présenté ça, c'était « j'ai pas envie qu'on imagine une ville de Paris dans 100 ans ». Et qu'on ne prenne pas en compte le fait qu'on risque de plus avoir de pétrole pour y vivre. Et donc, il voulait inclure les thématiques qui lui semblaient très importantes dans une prospective à si long terme. Donc, la réaffection des ressources en énergie intervient à ce titre-là. C'était une réaffection des ressources au sens large, puisqu'en effet, on a ajouté l'eau qui, elle, est totalement liée, quasiment totalement lié aussi aux évolutions climatiques. L'alimentation peut être liée par la production agricole. Et la biodiversité peut aussi avoir un lien avec le changement climatique. On aurait pu ajouter d'autres ressources. On a étudié le fait d'ajouter les ressources en matériaux et les ressources financières dans une mesure un peu plus philosophique. On a abandonné ces idées parce que c'était trop large. Voilà.
Oui, bonjour, j'ai deux questions. D'abord, une question plutôt à Marie Gantois et Sylvain Mandon, je crois, sur les questions de comment bien communiquer ces questions d'incertitude et de risque aux décideurs, dans vos expériences, dans les systèmes, par rapport aux politiques. La compréhension du risque, la compréhension d'incertitude, c'est un sujet qui dépasse de loin le débat du climat, comment c'est vraiment pris en compte dans les décisions politiques, les décisions des pouvoirs publics, mais surtout compte tenu des incertitudes qui sont au cœur de ce colloque, comment ça joue vraiment dans l'élaboration et surtout la communication de ces risques dans l'élaboration de ces stratégies, de ces plans et de la mise en œuvre. Et une question également pour Jean-Yves. Tu as parlé un peu des filiales d'EDF présentes dans d'autres pays. Ce qui me frappe, il y a deux cas de figure qui sont particulièrement intéressants. Dans un premier temps, c'est la question de la collaboration des filiales d'EDF avec d'autres sociétés pour essayer d'améliorer la capacité d'autres sociétés d'électricité à gérer les risques. Parce qu'à terme, c'est très bien qu'EDF ait bien intégré ces questions. en France et via ces filiales ailleurs œuvrent en ce sens, mais quelle collaboration existe entre sociétés, entreprises d'électriciens dans le monde en ce sens, et avec un volet également peut-être en Europe, plus particulièrement la collaboration transfrontalière en la matière de gestion. C'est très bien de dire voilà, on veut gérer les risques liés à l'été caniculaire en France, mais le problème climatique ne s'arrête pas au Rhin. Donc comment on gère exactement ces questions sur un plan européen aussi?
Il y a beaucoup de questions. D'abord sur la question d'incertitude et de communication en termes de gestion du risque. Une des mesures du plan national d'adaptation au changement climatique dans la fiche transversale est consistée à une commande au comité de prévention et de précaution pour définir ce qu'est le risque acceptable. Ces travaux sont en cours de finalisation, mais c'est tout à fait majeur pour nous. On attend les conclusions, on s'appuie sur un comité d'experts pour ça. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est que on peut avoir des actions de prévention, s'adapter en termes de prévention à une certaine plage de fonctionnement pour une activité, pour un secteur, pour un territoire. Au-delà de cette plage nominale de fonctionnement qu'on peut anticiper pour l'avenir, en extrapolant le présent, pour faire simple, de différentes méthodes. Il y a des méthodes qui utilisent des projections climatiques, il y a des méthodes statistiques, enfin, il y a plein de méthodes de gestion pour ça. Au-delà de cette période normale, cette plage normale, il y a une plage qui va être une plage assurable. Et au-delà de la plage assurable, il va y avoir la plage réassurable. Et au-delà de la plage réassurable, il y a le risque résiduel qu'on ne couvrira pas, que la société ne couvrira pas, que on peut définir comme un risque acceptable. Alors la question, c'est où est-ce qu'on met le seuil? La réponse, c'est ça dépend de l'activité, ça dépend de quoi on parle. Le risque acceptable pour un système de refroidissement d'une centrale nucléaire, c'est pas le même que le risque acceptable pour l'isolation d'un logement ou d'un bureau. Et pourtant, on parle du même paramètre qui est la température. Donc c'est important d'aborder cette question-là sous cet angle-là. Maintenant, on n'a pas beaucoup de réponses. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'investir dans la connaissance et de travailler sur ces questions-là. Alors comment on peut communiquer sur ça ? Ben, même si c'est difficile, il faut quand même communiquer sur ça et expliquer que les incertitudes, ça peut se gérer jusqu'à un certain point, ça peut s'assurer au-delà, ça peut se réassurer encore au-delà, et puis il reste un risque résiduel. Mais on n'a pas d'autre réponse. Maintenant, l'assurance en soi, si on ne change pas les seuils, c'est pas une mesure d'adaptation, parce que ça permet justement de ne pas s'adapter. Donc il faut faire attention, il faut vraiment ajuster les seuils. Je ne sais pas si Marie a des choses à ajouter sur cette question.
Je partage ce point de vue et je n'ai pas forcément d'autres ajouts complémentaires.
Comme Jean-Yves a des choses à dire et puis il est obligé de nous quitter pour le Brésil.
Donc je vais répondre à ta question sur donc la collaboration avec les filiales. Ça c'est quelque chose qu'on a engagé dans le groupe, mais on a aussi beaucoup de collaboration avec les autres producteurs dans le monde et en particulier avec les producteurs dans les pays en développement. Parce que c'est pas simplement une affaire de producteurs de pays développés. On est présent dans différentes associations où il y a des producteurs qui sont présents dans les pays en développement et qui ont eu les mêmes problèmes. Qui ont eu les mêmes problèmes de refroidissement, qui ont vécu des choses analogues. Et on a été amené à réfléchir ensemble et on continue à réfléchir ensemble. On a écrit un papier ensemble à Durban sur ce sujet-là. Et on a échangé en particulier une compagnie qu'on connaît bien, qui est la compagnie Eskom en Afrique du Sud, hein, qui s'est posé très sérieusement ces problèmes-là, au point d'écrire aussi une adaptation, une stratégie d'adaptation au changement climatique, et avec qui on a collaboré fortement pour échanger nos expériences et les différents gestes qu'on a été amenés à décider dans nos entreprises respectives. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de partager au maximum avec les autres producteurs dans le monde, hein, même si aujourd'hui les thématiques liées à la réduction des émissions, au moins pour le secteur électrique des pays développés, a été la première problématique hein, qui a engendré les coûts et donc qui a mobilisé les acteurs. L'adaptation est un sujet qui est très très émergent chez les producteurs d'électricité et avec qui on partage beaucoup. L'année dernière, on a organisé avec les producteurs d'électricité européens hein, une journée à Bruxelles avec l'ensemble des acteurs de la Commission sur Roadmap 2050 et eau. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'électricité ? Donc c'est vraiment des sujets qu'on regarde de près. Alors maintenant, au niveau de la gestion transfrontière, il y a un aspect positif qui est l'existence d'un marché de l'électricité hein, avec des interconnexions, quelquefois qui ne sont pas suffisantes, mais il y a une interconnexion donc, qui permet d'avoir des échanges d'électricité entre les différents pays en cas de problème. Alors, bien sûr, si on a le même problème météorologique ou climatique partout, ça ne résout pas forcément tous les problèmes, mais c'est une flexibilité qui existe dans le secteur électrique. Il y a un troisième point que je voulais mentionner, parce qu'on a parlé d'incertitude, comment gérer l'incertitude. On a lancé des études à EDF pour essayer de comprendre quelle était la cadence à laquelle il fallait faire les investissements, hein, comment il fallait placer les investissements en fonction de l'état des connaissances, hein, de manière à optimiser, hein, à partir du moment où on sait qu'on va devoir s'adapter. Il faut optimiser les coûts sur un parc qui est aussi grand que le nôtre. Donc on essaie de faire des études en essayant d'évaluer le risque, de mettre des probabilités derrière, de manière à pouvoir faire des calculs dans un environnement stochastique dans lequel on sait qu'il y a des incertitudes et il faut gérer l'incertitude de cette manière-là. Donc ça, c'est des problèmes un petit peu nouveaux, hein, mais qui sont nécessités par la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y avait un dernier point sur lequel je voulais réagir tout à l'heure. Alors, on parlait de raréfaction des ressources, gestion des ressources, des combustibles. Donc là, ça n'a pas trait à la raréfaction des ressources. Mais en 2003, il y a eu des problèmes d'approvisionnement de ressources fossiles, en particulier en Allemagne. Hein, vu l'étiage de certains fleuves, il y a certaines centrales qui ne pouvaient plus avoir le charbon dont elles avaient besoin, parce que les barges qui circulent sur les fleuves en Allemagne ne pouvaient plus fonctionner. Donc effectivement, c'est des problèmes qu'il faut anticiper sur des étés très secs. Voilà.
Jean-Yves, avant que tu partes en courant, je me demandais si tu pouvais réagir à l'article qui est sorti la semaine dernière sur les risques pour le secteur électrique en Europe, qui, si je ne m'abuse, est beaucoup plus pessimiste que ce qu'on avait vu auparavant, et notamment ce qu'il y a dans le plan français d'adaptation et ce qu'a fait le groupe interministériel. Je ne sais pas si en interne vous avez eu le temps de regarder.
J'ai eu l'article, mais malheureusement je ne l'ai pas lu en détail. Très honnêtement, je ne l'ai pas lu en détail pour comparer les résultats qu'ils donnent à la fois sur les États-Unis et l'Europe avec les estimations qu'on a pu faire sur les différents fleuves en France. Parce qu'on a fait des études hein, sur les principaux fleuves, on a des centrales. Et je n'ai pas eu le temps je l'ai l'article, mais je ne l'ai pas encore analysé suffisamment à fond pour te répondre.
Un moyen d'utiliser ton vol pour Rio.
Hein, voilà.
Là, on a fini.